ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour?
Mes secondes invitées, à savoir Claire Citton et Sabrina Ahmed, qui toutes les deux sont comédiennes, metteurs en scène. Pour ce qui s'agit de Claire, elle est aussi autrice. Elles sont comédiennes, mais elles ont aussi fait des études théâtrales à l'université Jean Jaurès, je suppose, toutes les deux. Et donc là, elles se trouvent toutes les deux réunies pour une création. La première avait lieu mardi au Théâtre du Grand Rond. C'est présenté par la compagnie Étrange Paradis, qui a été, si on peut dire, créée peut-être pour cette pièce, intitulée « Les 100 000 femmes que je suis en pourparlers », dont c'est écrit, joué et mis en scène par Claire Citton, et Sabrina Ahmed fait la direction d'artiste. Et il y avait aussi le regard extérieur de Séverine Astel. Voilà, c'est une histoire de sororité. Bonjour d'abord, pardon.
Bonjour. Oui, bonjour. Il s'agit aussi de rencontres, finalement. Séverine Astel, c'était l'une de mes enseignantes à la formation du ring que j'ai faite en 2010. Mm-hmm. Et moi, j'avais adoré son rapport aux comédiens, comment elle nous dirigeait vraiment dans dans l'instant présent, dans le côté direct de lien à ce qu'on dit, à ce qu'on vit, et le lien au spectateur aussi, d'être toujours dans ce temps du présent. Mm-hmm. Voilà, après moi je l'avais pas vu depuis longtemps, je l'ai
recroisé,
je l'ai rappelé, je lui ai demandé si elle voulait bien être regard extérieur, mm-hmm. je lui ai fait passer mon texte, mm-hmm. et puis direct elle m'a dit oui, c'est ok, et ça a été un peu pareil aussi pour Sabrina. Alors Sabrina, on avait déjà travaillé ensemble sur un spectacle avec ta compagnie à toi, sur la compagnie L'Oiseau Bleu, sur un spectacle qui s'intitulait Voix, mm-hmm. Qui traitait de l'homophobie, voilà. Et donc j'étais comédienne sur ce spectacle avec notamment Johan Bray. Donc voilà, Sabrina, moi j'avais déjà travaillé avec elle, elle m'avait déjà dirigée au plateau, donc j'avais confiance en elle, je savais déjà que c'était chouette de travailler avec elle, et enfin j'avais vraiment confiance en son regard. Mmh. Et pour un spectacle comme ça, que j'ai écrit, que je mets en scène, où je joue...
Vous faites tout, oui.
Je fais tout.
Sur tous les plans.
Oui, et c'était...
Et puis sur un sujet quand même,
oui,
pas facile.
Sur un sujet pas évident, qui est l'inceste. Mm. Et je ne me voyais pas du tout le concrétiser, le créer sans une personne en
bien
regard
sûr,
extérieur.
Oui,
enfin,
oui.
Pour moi, c'était évident qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un.
Oui. Et voilà, qui soit à vos côtés, qui vous accompagne.
Ouais, qui m'accompagne, pareil, avec cette confiance-là mutuelle.
Bien sûr.
Je ne me sentais pas non plus de recommencer à travailler avec quelqu'un que je ne connaissais pas, parce que le temps de création a été très rapide. Mmh. On a créé, alors pas la partie écriture, parce que ça c'était plus long, mais la partie création, en 4 semaines, on a fait le spectacle. Donc c'est relativement court, parce qu'en principe... d'habitude, c'est plutôt 6 semaines, parfois 8. Bon, après, ça dépend des productions, ça dépend du financement qu'on a et tout ça. Donc là, ça a été assez rapide. Donc, il fallait qu'on soit efficace et qu'on aille vraiment à l'essentiel rapidement, quoi. Donc, c'était chouette. Ça a permis ce travail-là avec Sabrina, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et vous pouvez me dire, Sabrina, lorsqu'elle vous a contacté, comment...
Moi déjà quand elle m'a contactée, comme tu disais Claire, on a déjà travaillé ensemble, voilà, donc l'envie était là de travailler avec elle. Après moi je lui ai dit j'ai besoin de lire ton texte parce
ça me paraît un peu normal,
je rejoins un projet avant tout, même si j'avais très envie de travailler avec toi. Et c'est vrai que j'ai lu le texte qui m'a littéralement mise en larmes en fait, et donc j'ai rappelé Claire en lui disant mais oui je t'accompagne à 200%, Voilà, parce que c'est un texte qui est magnifique, voilà, qui est très intime, qui n'est pas évident, qui est très dense et qui est très poétique. Et voilà, j'avais envie justement de participer à, ce beau projet.
À ce
quoi.
Projet. Ouais. De l'épauler au quotidien.
Ouais, complètement. Et ça a vraiment été ça, parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Alors, il y a Séverine qui est venue, mais on était vraiment toutes les deux, tout le long. Enfin, il y a vraiment un truc où... Ouais, on était vraiment l'une sur l'autre.
Soudées.
Tout le temps.
Ouais. Soudées l'une à l'autre.
C'est ça.
Sur ce projet. Quand c'est que vous avez commencé à écrire ? Il y a très longtemps que vous l'avez écrit, ce texte, ou qu'il a mûri, et puis... parce que j'imagine que, bon, par rapport à ça, c'est pas si facile et...
Non, c'est pas évident. Alors,
parce que c'est quelque chose qui vous, qui est au plus profond de vous-même.
Oui, alors c'est forcément quelque chose qui est là en moi, tout le temps. Enfin, après, je m'en souviens pas heureusement.
Oui.
Mais en tout cas, donc ça faisait. Une dizaine d'années que j'avais envie de monter ce spectacle avec ce titre-là, Les 100 000 femmes que je suis en pourparler. En fait, j'avais déjà un recueil de plusieurs textes.
D'accord.
Donc la plupart des textes, à ce moment-là, je les avais écrits en 2011-2012. J'avais des textes plus anciens qui dataient de mon adolescence, mais ça, c'était une minorité de textes. Et donc c'était vraiment plus sur la place des femmes dans la société pas du tout sur ciblé sur l'inceste.
Oui.
Ça parlait de l'inceste en creux dans les non-dits, dans les voilà.
Parce que l'inceste de toute façon induit sur après la vie d'une femme qui l'a subie. Enfin je veux dire.
Et donc au départ c'était vraiment pas ciblé uniquement sur cette thématique de l'inceste. Et puis ça s'est fait vraiment petit à petit au fur et à mesure des premiers temps de création, parce qu'au départ c'était pas moi qui portais ce texte, c'était pas moi qui étais au plateau, j'avais deux comédiens. Alors c'était moi qui écrivais, c'était moi qui mettais en scène, mais c'était pas moi au plateau, j'avais une comédienne et un comédien qui m'accompagnaient. On a fait une première résidence de création en mars 2021. Où là, en fait, on s'est aperçu, et c'était hyper important cette étape-là, que le texte tel qu'il était à cette époque-là, ça n'allait pas.
Ça
n'allait pas sur le plateau, il n'y avait pas de fil conducteur, enfin, il y avait vraiment au niveau construction à l'intérieur, il y avait quelque chose qui clochait. Voilà, et puis en plus, mes deux comédiens m'avaient fait le retour que c'était moi qui pouvais porter ce projet, et uniquement moi. J'ai mis vachement de temps à me dire, en fait, il faut que ce soit moi.
Mais ce n'est pas si évident.
Non, c'est pas si évident.
Il y a votre histoire, il y a le fait de se retrouver après face au public.
Oui. Ouais.
Puis vous l'aviez écrit, donc écrire un texte, c'est une chose. Après, l'interpréter, être sur scène, ça n'est une autre.
Et donc ça, c'était la première étape du texte. Et à partir de... En fait, en parallèle, j'écrivais pour moi ce qui était un roman d'autofiction que j'ai commencé à écrire en 2019 et que j'ai écrit jusqu'à 2022, là, juin 2022. Et en fait, en revenant sur ce texte, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, mon spectacle. C'est ça, les 100 000 femmes. C'est pas le recueil d'autres textes parlent de 23 femmes et tout ça. C'est vraiment ce texte-là qui est comme un texte fleuve. Et après, j'ai gardé peut-être 3-4 textes vraiment très courts qui venaient un peu en écho, en réponse à ce texte-là. Voilà. Et donc là, c'est devenu hyper évident
que c'était
sur l'inceste, et pas l'inceste de manière générale sur cette thématique-là, mais plus ciblé sur mon histoire et mon vécu, et évidemment transformé par le biais de l'écriture, de la fiction aussi.
Bien sûr, oui. Et ça, y a la distance.
Oui,
enfin, c'est
Et voilà. Et puis moi, il était hors de question d'amener sur la scène quelque chose qui était de l'ordre de la psychanalyse ou comme ça. Enfin, moi, pour le coup, je dissocie vraiment mon travail artistique du travail à côté
de thérapie
qui est forcément nécessaire quand on traverse ce genre d'épreuve.
Ouais.
Et que du coup, ça, pour moi, j'ai eu besoin de régler le plus gros avant.
Bien sûr. Oui.
Et de me faire accompagner avant, enfin, tout au long de ma vie, pour pouvoir enfin, justement, porter ce texte à la scène et justement avoir cette fameuse distance qui me permet de jouer avec ce sujet-là, de pouvoir l'assumer aussi sur le plateau et puis de pouvoir le transmettre aussi aux spectateurs. Voilà.
Oui, le travail thérapeutique, c'est sûr que c'est en amont et c'est de longue haleine, et puis c'est personnel.
C'est ça. Et donc, j'avais pas envie que ça se retrouve du tout.
C'est variable en fonction des individus, parce que déjà, il y a au départ l'indicible, si on peut dire, l'insoutenable, et il faut dépasser cela. J'imagine. C'est déjà. Ça se fait pas comme ça en deux temps, trois mouvements, quoi.
Non, c'est sûr, c'est déjà une sacrée étape, c'est plusieurs années de sa vie. Et en même temps, quand on a vécu ce genre d'épreuve, comme un inceste, d'autres violences, de toute façon, c'est pas réglé une bonne fois pour toutes. C'est vraiment au fil des années, au fil du temps, que plus ça va, ça se retisse. On refait un petit peu comme un sol solide les fondations de sa maison. Parce que c'est vrai que ça atteint vraiment assez profond.
Oui, bah oui.
Voilà.
C'est l'intime, on ne peut pas aller plus loin, si je puis dire.
Oui, par rapport à l'individu, à la construction de l'individu, puisqu'on est là-dedans, quand on est enfant, on est en train de se construire.
Oui.
Donc oui, ça vient atteindre des choses assez profondes. Je ne sais pas où est-ce que je voulais en venir par rapport à ça, mais comment dire ?
Ça remet aussi, il me semble, la confiance en l'autre, enfin.
Oui, ça atteint en tout cas au niveau de l'intime, de sa famille, de
se poser des questions sur le genre humain, quoi. La proximité, quoi.
Nous protège pas, font l'inverse. J'en parle aussi dans mon spectacle, mes parents qui, eux, ne m'ont pas fait subir du tout, mais qui n'ont rien vu. Par contre, ils ont essayé de réagir comme ils ont pu, parce qu'ils ont bien vu qu'il se passait des choses. Il y a des signes un peu annonciateurs chez les enfants. Moi, c'était courbe de croissance qui s'arrête, s'arrête pendant une année. Des douleurs au ventre, des choses comme ça.
C'est assez récurrent. Les douleurs abdominales, oui.
Et après, je pense que maintenant, peut-être que les personnes sont peut-être un peu plus outillées pour accompagner leurs enfants, pour le repérer, ou même les professionnels d'éducation et de santé. Enfin, en tout cas, je l'espère. qu'on va vers un mieux par rapport à ça.
Mais c'est, comment dire, j'ai du mal à comprendre que, au XXIe siècle, il y ait encore autant de cas d'inceste, et encore ceux qui sont mentionnés, qui sont dits, parce que ce n'est pas le cas de tous. Il y a des personnes qui, ce n'est pas, c'est difficile à pouvoir poser des mots, et puis surtout les dire à quelqu'un plus, quoi. Il y a ce passage, il faut s'armer d'un sacré courage, quoi. Et même si c'est une nécessité à l'intérieur, mais il faut pouvoir franchir le pas. Il faut que les mots aussi franchissent la langue. Enfin, c'est un travail colossal.
Puis je pense que chaque personne est vraiment totalement différente par rapport à sa manière
de réagir,
de parler, de décider de ne pas parler, de garder ça pour soi ou de effectivement
et de continuer à vivre et de se projeter.
Mais ouais, c'est des grandes étapes. Et puis, on en parlait un petit peu hier, parce que hier, il y avait un débat après le spectacle, par rapport
avec une association.
Oui, avec le CAVAX, une association...
De psychologues, c'est ça ?
Alors, c'est un centre d'aide aux victimes de violences, d'agressions sexuelles. Voilà, donc ils soutiennent des personnes entre 15 et 75 ans, c'est ce qu'ils nous disaient hier, aussi bien hommes que femmes. Voilà. Ils interviennent pas plutôt pour des enfants parce que c'est souvent délicat, ou alors ils accompagnent carrément des familles. Voilà.
Vous les aviez rencontrés,
vous ? Le CAVAX ?
Oui.
Oui, on avait rencontré Hillel avec Sabrina en amont du débat du d'hier, travail, on l'avait rencontré pour lui demander justement par rapport au spectacle s'il était intéressé pour intervenir. On avait discuté très longuement avec lui, il nous avait raconté tout son parcours, le parcours du centre d'aide aussi, de comment ça avait vu le jour. Et puis il a une vision assez belle aussi de l'accompagnement, que c'est pas linéaire, que qui a toutes sortes de manières d'accompagner les gens aussi et tout plein de méthodes thérapeutiques. Et en fait, il n'y a pas un seul chemin pour toutes les personnes qui ont été victimes d'inceste.
Parce que ce qui convient aux unes ne pas convenir aux autres.
Oui.
Ou peut-être une peut convenir maintenant en 2022 et en 2024 ne plus convenir parce que la personne a évolué. Oui, c'est vraiment du travail du pas à pas, d'une écoute très fine, très sensible, très...
Et comme il disait hier, ça me paraissait aussi hyper important que jamais il ne force une personne à parler, si elle n'est pas prête, si c'est pas le moment, ça peut être vécu de manière encore plus violente.
Ça peut être pire, c'est une violence ajoutée à une autre.
C'est une seconde violence. Donc ça, je pense que c'est important aussi à dire, même si on accompagne des personnes qui ont vécu ça, parce que souvent, nos conjoints ou nos conjointes ou notre famille, nos amis savent pas toujours comment nous accompagner. Mais en tout cas, non, il faut pas forcer quelqu'un à parler. C'est très violent.
Bah oui, parce que c'est tellement intime et violent et tellement incompréhensible. Enfin,
c'est un peu un cataclysme, ce genre d'événement. Et du coup, rien que d'en parler, de mettre des mots dessus, ça prend quand même du temps. Et après, ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Hier, il y avait Roland Gigois qui est comédien aussi, et qui a écrit un spectacle aussi sur l'inceste qui s'appelle Un scorpion dans la maison, qui expliquait que lui, par exemple, il n'a pas eu d'amnésie traumatique. Ça veut dire qu'il se souvenait de tout, il n'a rien oublié, il se souvenait de tous les événements. Alors je sais pas à quel point ça c'est rare, mais il y a beaucoup de gens qui ont une amnésie traumatique qui est là. Moi j'en ai eu une qui a duré 8 ans mais finalement c'est relativement court par rapport à des personnes qui se rendent compte à 50 ans et donc qui ont des amnésies qui durent 30 ans, 40 ans, enfin une bonne partie de leur vie. Ça doit pas être évident aussi de se réveiller à 50 ans, de se rendre compte en fait, oulala, mais la moitié de ma vie je l'ai vécu, mais sans comprendre ce qui m'était arrivé. Donc ça remet un peu tout en question aussi quand on s'aperçoit de ça. On refait le chemin en arrière, on réanalyse tout. Là j'en parlais un peu avec Sabrina, moi c'était vraiment comme une enquête en fait, de retrouver à l'intérieur de ma mémoire qu'est-ce qui s'était passé, en quelle année, moment, pour remettre en ordre dans
son
cerveau,
reconstruire
un peu les événements, même si évidemment c'est pas plaisant, c'est hyper malaisant même de se rappeler de ces événements, mais en même temps c'est nécessaire pour la reconstruction après.
Bien sûr, pour pouvoir avancer.
Oui, mais pour certaines personnes, ça peut ne jamais se faire en fait, que les personnes ne souhaitent pas du tout ouvrir cette porte-là. Et ça, il faut pouvoir le respecter aussi en fait. Même si les proches ont l'impression qu'il y a quelque chose de ce côté-là, mais si la personne n'est pas prête, non, elle n'est pas du tout prête, quoi. Ni à parler, ni à faire ce travail-là, peut-être. Et peut-être qu'elle ne sera jamais prête.
Voilà. Oui, c'est très variable, effectivement. Voulez-vous que nous fassions une pause musicale ou...
Oui.
Voilà.
Avec plaisir.
Puis nous reviendrons sur le spectacle, plus précisément. Majestueux, rendez pareil. Merci pour l'extrait musical dont nous allons reprendre la conversation, dont j'aimerais que vous me parliez de ce travail d'écriture. Vous avez une formation littéraire, enfin vous avez fait des études de lettres, vous...
Alors non, pas collège, proprement non, parler. Moi j'ai une formation universitaire, j'ai un master 2 d'art du spectacle.
Mais avant, je veux dire, c'était un bac philo, c'était un bac scientifique.
C'était un bac littéraire, oui. Avec une option théâtre déjà.
Déjà.
Oui, déjà, c'était déjà là depuis très tôt le théâtre. Et après, non, pas plus l'écriture que ça dans mon parcours, en tout cas universitaire. Mais par contre, l'écriture était présente depuis longtemps pour moi.
C'était un peu une façon de vous protéger, de vous sauvegarder, le fait d'écrire.
Alors j'en parle un peu dans le spectacle, justement à quel moment j'ai commencé à écrire, et j'ai commencé en plus à écrire des spectacles pour me détacher de mon histoire
et pour pouvoir toujours à distance, enfin pour faire autre chose,
pour pouvoir mettre à distance et pour pouvoir justement mettre à distance et maîtriser mes peurs, maîtriser ce qui m'arrivait. Donc ouais, ça a été salvateur pour moi, le théâtre et l'écriture. Donc je pense que je devais avoir 8 ans et demi, et j'ai écrit. Alors écrit, c'est un bien grand mot, hein, parce que
j'étais enfant. De vos 8 ans et demi, voilà. Non, mais il y avait déjà cette nécessité, cette urgence, quoi, pratiquement, pour pouvoir continuer à rester debout, si on peut dire.
Oui, c'est ça, à rester debout et à ne pas m'écrouler. Donc je pense que ça a été vraiment une nécessité. Et
une béquille, quoi, enfin, quelque part.
Oui, ouais, une béquille. Donc après, j'avais de la chance j'ai commencé le théâtre et la musique assez jeune. Enfin, j'ai eu finalement cette chance d'être baignée dans l'artistique jeune.
Vos parents étaient aussi dans un milieu artistique ?
Alors, pas du tout. Je pense que c'est des artistes un peu qui ne se sont pas révélés, mais je sais que mon père écrit pour lui, il écrit un journal tous les jours, il fait un peu de l'art brut aussi, mais il montre rien. Ma maman, elle fait des tableaux aussi, elle peint beaucoup, mais c'est pareil, ils montrent rien. Ils ont dans leur entourage beaucoup d'amis dans le spectacle vivant, beaucoup d'artistes, donc ils aiment quand même ce milieu-là. Et voilà, je pense que si la vie avait fait autrement, peut-être qu'ils auraient assumé d'être artistes. Voilà, bon, ça n'a pas été le cas. Et, mais en tout cas, oui, cette culture-là, moi, m'a vraiment finalement sauvée aussi, quoi.
Et en musique, vous avez...
Alors, en musique, il y a le violoncelle qui prend une petite place, toute petite place dans le spectacle, oui, même s'il il est très présent au niveau de
vous tournez, enfin, vous...
Oui.
Le...
Ouais, ouais.
Il y a quelque chose de très corporel, très sensitif.
Oui. Et le violoncelle, oui, j'ai commencé à peu près en d'accord. même temps que le théâtre. Je devais être en CP, j'ai commencé. Ah oui. J'avais, ouais, c'est assez jeune, quoi.
Ah oui, vous aviez un mini violoncelle.
J'avais un petit violoncelle, j'avais un quart de violoncelle. Mmh. Ouais, ça s'appelle un quart, après il y a un demi, trois quarts, et on passe à un entier. Oui. Voilà.
C'est comme pour le violon.
Oui, exact. Mmh. Ouais, ouais.
Vous continuez à en jouer ?
Alors, beaucoup moins régulièrement qu'avant, mais j'en joue pour des spectacles, justement la création de Sabrina, j'avais quelques extraits au violoncelle aussi, donc je m'en sers vraiment, donc je suis plus comédienne que violoncelliste finalement, mais de toute façon, oui, ça a quand même sa place dans ma vie artistique et dans mon travail.
D'accord. Oui, donc pour l'écriture, vous avez une écriture magnifique, très poétique aussi, vous procédez par images, et notamment un rapport très fort aussi avec la nature, enfin vous avez comme ça il y a des fulgurances, et heureusement que vous avez cette capacité d'écrire, parce que le sujet étant ce qu'il est, ça pourrait virer très facilement au glauque.
Ou à un règlement de compte avec ma famille ou à quelque chose, une écriture liée à vraiment de la pure colère.
Ouais.
Et je repense à Virginia Woolf qui parle dans une chambre à soi.
Oui.
Elle parle de beaucoup d'autrices de son époque et puis d'avant, et elle dit très justement que écrire simplement à partir de la colère, c'est pas suffisant et ça ne tient pas dans le temps.
Il faut que ce soit plus construit parce que la colère aussi.
Parce que en tout cas, ça s'épuise très rapidement. Et puis, enfin voilà, moi je me suis jamais dit que j'écrivais pour libérer ma colère et pour régler mes comptes.
C'était pas de cet ordre-là, pas cet endroit-là, oui.
Non. Et enfin voilà, bon, moi ça a commencé petite, où j'écrivais des spectacles pour me détacher un peu. À l'adolescence, je me souviens que j'avais toujours des carnets avec moi et je prenais des notes de choses que je vivais, de ressentis. Alors c'était pas du tout un journal parce que je me sentais pas de faire un journal, mais en tout cas c'était des notes, des petits poèmes, des choses comme ça, plutôt des textes courts. Et après, l'écriture, j'y suis revenue de manière vraiment un peu plus sérieuse, entre guillemets, quand j'étais en première année de fac.
À l'université.
À l'université, j'ai commencé d'abord, j'ai fait une licence 3 à Bordeaux.
D'accord.
Avant de venir à Toulouse. Et en première année, j'ai commencé à écrire un spectacle, un peu plus poussé, que j'ai pu jouer 3 ans après, ma dernière année d'université. Où là, j'ai vraiment écrit pour le spectacle vivant, pour le théâtre.
D'accord, oui.
Et pareil, c'était pas ciblé sur l'inceste non plus, mais c'était sous-jacent dans certains personnages aussi.
Oui, c'était comme ça par touche, si on peut dire.
Ouais.
D'accord. Et il y a aussi, puisque vous dites que aussi, puisque vous êtes musicienne aussi, enfin, vous avez beaucoup pratiqué la musique, parce que comme ça, dans le récit que vous nous proposez, il y a comme ça des moments qui sont des mots qui sont très durs, très difficiles, très noir même. Et puis après, il y a la beauté. Mais il y a aussi un rythme. Enfin, vous vous déplacez. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être vous qui pourrez en parler, Sabrina. La façon aussi dont vous évoluez sur scène, physiquement parlant. Il y a comme ça des... Comme on pourrait dire, des allées et venues, en fait. Vous partez dans un coin de la scène, et puis après, vous revenez, avec des fois une autre voix aussi, parce qu'il y a tout un travail sur la voix aussi, puisque vous avez différents tons. Enfin, c'est vraiment... Il y a aussi tout ce travail corporel que vous faites, qui est vraiment impressionnant, et puis qui en dit tellement. C'est aussi une autre écriture.
Oui, c'est vrai que c'est une autre écriture.
C'est une autre approche pour pouvoir évoquer cette thématique.
Et puis, je pense que le travail corporel aussi a permis, en quelque sorte, de se détacher du texte aussi, parce que vu que j'étais autrice aussi, quand j'étais au plateau, je me disais, on a ce texte-là, et après, c'était pas évident de pouvoir jouer, s'amuser avec ça, ouais. Le décaler. Donc j'avais déjà cette envie-là qui est du corporel. Après, Sabrina et Séverine m'ont amené à aller plus loin, vraiment, ce à quoi je m'attendais. Mmh. Et en tout cas, je voulais qu'il y ait de la peinture, parce que, enfin, voilà, moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et pareil pour la partie danser, sachant que je suis pas danseuse, c'était pas évident aussi de travailler sur ça, mais ça me paraissait important aussi. Et donc là, on s'est vraiment inspiré par rapport à la partie danse. Donc c'est avec une musique qui est Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau,
oui.
Avec une version du metteur en scène Cogitor, qui a mis en scène cet opéra, et avec des danseurs de Crump, qui est une danse très très ancrée au niveau des pieds et au niveau des bras, assez finalement presque un peu vers le vers le ciel, enfin très très physique, et en bas beaucoup plus posé, beaucoup plus lent, voilà. Et donc on s'est inspiré beaucoup du crump, même si voilà, je ne suis pas danseuse spécialiste du crumping, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà.
Oui, mais c'est vrai, c'est ce que tu disais dans le rapport aussi à la nature, qui est beaucoup dans le texte, etc. On a retrouvé un peu ça dans le crumb, dans cette idée d'ancrage, d'animalité, de trip, un peu, en fait.
Ouais, ouais.
Et du coup, oui, ça a été assez inspirant. Et même si tu n'es pas danseuse et que je ne suis pas chorégraphe, on a quand même réussi à en faire quelque chose d'assez chouette, je trouve.
Parce qu'il y a comme ça toutes ces approches différentes qui permettent, oui, de s'éloigner un peu, enfin, sans s'en éloigner, mais de pouvoir, voilà, donner ce que vous donnez, quoi. Enfin, et aussi la peinture, parce que c'est un peu comme, vous êtes un peu comme les petits-enfants, vous y allez avec les dons.
Oui,
c'est,
ouais.
Vous empruntez, enfin, vos mains que vous...
Oui.
Les petits-enfants aiment faire ça, il y a ce contact très... sensuel avec la peinture, enfin ça peut être la terre, bon là c'est de la peinture,
ça c'est de la peinture, mais après c'est, il y a tout ce rapport là à l'enfance dans mon texte, et il y a le rapport à l'enfance lié au traumatisme, qui est présent forcément, mais il y a le rapport à l'enfance aussi parce que moi j'ai grandi justement à la campagne, dans un endroit assez sauvage.
C'était
avec
où,
beaucoup
si
d'arbres.
C'est pas discret.
C'était en sud Gironde.
D'accord.
Dans un endroit qu'on appelle la Palue, en fait c'est les bords de Garonne.
D'accord.
Et c'est un endroit en zone inondable, donc voilà, après ça n'a jamais été inondé, heureusement, et c'est un endroit où il y a beaucoup de végétation, enfin, c'est pas la forêt amazonienne non plus,
mais je comprends,
mais c'est la végétation est très riche, voilà. Il y a des peupliers, après il y avait aussi, je parle de vignes, parce qu'il y avait aussi des vignes, il y avait aussi des champs de maïs, il y avait aussi des choses, voilà, dans la région, aussi des choses qui sont, enfin, de l'agriculture, quoi. Et il y avait la Garonne qui passait tout près aussi, donc moi j'ai vraiment été un peu bercée par tout ça. Et on passait beaucoup de temps dehors, tout le temps, enfin, très souvent, ouais.
Mais vous savez, ça me revient maintenant, Camille Claudel, le livre que lui a consacré Anne Delbé, elle parle aussi de la petite Camille qui, quand elle était petite, c'était plus au-dessus de la Loire, si mes souvenirs sont bons. Mais il y avait aussi comme ça ce rapport avec la nature. Bon, il y avait cette terre, elle, qu'elle avait déjà envie. Mais il y avait aussi comme ça les arbres, elle voyait des personnes. Enfin, ce travail que la nature peut avoir sur l'imaginaire de tout un chacun, et pour vous aussi. Parce que quand vous montrez les diapos aussi, quand vous dites le vert,
le vert.
Les différents verts avec des... Bon, ce que c'est, enfin, ça a aussi à voir, j'imagine, avec le souvenir de cette nature, mais aussi par le prisme de vos souvenirs, mais peut-être aussi de votre imagination. Enfin, c'est
souvent très mêlé, hein, quand on est dans l'enfance, très vite, tout prend une envergure un peu
plus grande,
énorme, et plus grande aussi. Ouais. Et
plus fantastique, même,
des fois. Plus fantastique, ça c'est sûr. Donc, moi,
spagorique.
J'ai un rapport à la nature qui est vraiment presque animiste,
charnel,
en fait. Quand
animiste.
Je dis animiste, vraiment animiste,
oui.
J'ai l'impression que presque un arbre, quand j'en parle un peu dans le spectacle, un arbre me parle, ou un arbre en tout cas parfois est plus vivant que d'autres humains que je peux croiser.
Bien sûr, oui.
Voilà, et que du coup, c'est des choses, enfin un arbre, le ciel, des oiseaux, enfin ça paraît un peu fleur bleue et voilà. Mais moi, j'ai encore ce rapport-là que j'avais déjà enfant. Et oui, j'ai été nourrie de ça. Mmh. Et bah d'ailleurs, j'habite à nouveau à la campagne depuis que je suis adulte. Et c'est quelque chose, moi, j'ai besoin que, d'être entourée de nature souvent. Voilà.
Ouais, c'est vital pour vous, quoi.
Ouais, je pense que c'est vital. Alors, après, pendant mes études, j'étais en ville.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Mais, mais c'est vital, ouais. Ouais, vraiment. Et le texte est aussi habité par ça, par cette nature. J'y fais beaucoup référence avec les diapositives. Mm-hmm. Quand je parle des arbres, quand je parle de mon voyage sur la rivière en tant qu'arbre aussi. Mm-hmm. Et puis aussi, je parle vraiment un moment des oiseaux au bec cornu. Mm-hmm. Mais ça, c'est pareil, c'est l'imaginaire en fait. Voilà, comment tout... tout se transforme tout et tout est vivant et tout s'imbrique et tout est aussi un peu comme sacré. Parce que, bon, moi, je ne suis pas spécialement croyante en quoi que ce soit, mais en tout cas, pour moi, la nature, des gens qui vont croire en Dieu, pour moi, Dieu, en fait, c'est la nature.
C'est la nature,
C'est, ouais, donc ça a ce côté sacré pour moi, vraiment.
Elle est salvatrice pour vous.
Elle est salvatrice, ouais, elle permet de transformer aussi beaucoup de choses. Et voilà, enfin moi je m'y sens bien. J'ai des très beaux chênes chez moi. Je sais que quand ça va pas, enfin même un petit coup de mou, un petit coup de blues, mais ça m'arrive d'aller m'asseoir à côté d'un arbre. Et oui,
il y a cette force qui émane.
Il y a cette force qui émane d'eux et puis bon voilà, je ne sais pas, je sais pas vraiment si c'est moi qui les entends parler, mais enfin c'est un peu débile de dire ça.
Non, mais il y a des spécialistes qui ont écrit des livres là-dessus, bien que oui, quand.
Ouais. Bah en tout cas moi je j'entends et puis ils ont énormément d'humour en fait. Moi ils me font des messages genre non mais t'inquiète, ça va aller. mais c'est enfin c'est génial quoi. Oui, c'est sûr la force je l'ai, mais ouais.
Et par rapport à une vie humaine, ils sont là pendant tellement de temps.
C'est ça, quoi, que ça nous permet de relativiser. Et puis même, moi, je vois quand, quand j'entends et que j'ai l'impression qu'ils s'adressent à moi, c'est « Non, mais t'inquiète, petite humaine, ça va bien se passer, ça va... Nous, on en a vu d'autres, t'inquiète, ça va aller. » Et voilà, ça me donne de la force,
J'aimerais savoir, Sabrina, comment vous avez accompagné tout ce travail, puisque vous étiez, tout le temps côte à côte, pendant toute la création. Justement, en ayant toute cette écriture, comme ça, très imagée, très poétique, la danse, donc, la peinture, tout ce travail sur le corps, le fait aussi que vous grimiez, après, avec l'éclairage aussi, à un moment donné, qui renvoie encore, qui peut situer dans, une autre étape, quelque chose de plus psychédélique, Donc j'aimerais savoir comment tout cela s'est imbriqué, comment vous avez débroussaillé un petit peu, parce que bon, après tout, sur le plateau, il faut en général élaguer un petit peu.
Oui, surtout qu'en plus, le texte est vraiment très très dense. On a aussi fait des coupes dans le texte. Après, ce qui était génial, c'est d'avoir l'autrice en direct. Ça, c'était vraiment super. Donc, on a eu énormément, on a beaucoup discuté, on a testé beaucoup de choses, en fait. Claire m'a fait part de ses envies, mais c'était pas des choses forcément arrêtées, c'est des choses qu'on a testées, qu'on a explorées. On a fait beaucoup d'explorations au départ, et puis beaucoup d'échanges sur, sur ton histoire, sur le texte, sur ce que tu voulais dire. Et du coup, oui, on a un peu avancé comme ça, un peu à tâtons, en fait. Comme tu disais, on a eu très peu de temps, finalement, dans ce temps de recherche. Et c'est vrai que, finalement, le spectacle s'est terminé le dernier jour de la résidence. Et jusqu'au dernier moment, on était vraiment dans des explorations. Donc, ça s'est fait un peu comme ça. Et on a gardé, finalement, toutes les choses qui nous semblaient justes à toutes les deux. Elle, dans son expérience de comédienne au plateau. Et moi, avec mon regard, effectivement, extérieur. Et on était, je trouve, assez connectés sur les idées, sur les envies. Alors, on n'était que toutes les deux. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confrontations d'idées, beaucoup d'échanges. Mais je pense qu'on s'est vraiment accompagnées aussi toutes les deux. Parce que c'est son texte, c'est son histoire. Oui. C'est Donc moi aussi, j'ai eu besoin d'être accompagnée.
Voilà, comme bagage à pouvoir digérer, entre guillemets.
Complètement. Et puis, il y a cette originalité aussi dans ce texte. Moi, que je trouve important de nommer, c'est qu'on parle beaucoup plus d'inceste en ce moment, mais on a souvent cette image d'un inceste, d'un masculin sur un enfant, peu importe le genre.
Oui, un petit enfant.
Et je trouve que toi, tu parles de ces, je crois, 2% de la population qui sont concernés par un inceste d'une femme sur un autre être. Et du coup, il y avait aussi tout ça à explorer, à chercher, à... Ouais, après, je pense que c'était beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Vraiment, ouais, le travail de texte était vraiment là en premier, parce que ce texte est vraiment dense.
Il est foisonnant.
Ah ouais, complètement. Et voilà, c'est vraiment le texte qui nous a amené à... Ouais, on a beaucoup exploré. Et puis c'est vrai que le regard aussi de Séverine nous a aussi fait beaucoup de bien, parce qu'à un moment, on n'est que toutes les deux et que ça fait vraiment
du bien. Non, vous êtes un peu enfermés dans votre
cocon. Ouais, c'est ça. Et du coup, on voit vraiment... on est vraiment focus sur des... Et c'est vrai que Séverine, quand elle est venue, ça nous a aussi amené une respiration d'avoir une tierce personne qui nous sort un peu de ce 1+1, quoi. Mmh.
Ouais.
Et voilà, et tout, et le travail s'est vraiment fait comme ça, en fait, à toutes les trois, finalement. Beaucoup dans l'échange, beaucoup, il y a eu... Voilà, parce que toi, tu es arrivée avec des envies aussi, comme la peinture, comme le corps, comme... il y avait beaucoup d'envies, et comment on inclut ça dans le texte, comment on trouve un mouvement à ce texte, parce que voilà, c'est bien évidemment, ça parle de l'inceste, mais ça parle avant tout de la résilience, donc comment on apporte cette chose-là aussi. Voilà, je sais pas, toi, peut-être tu peux, de ton point de vue du plateau, peut-être aussi, je sais pas comment toi t'as ressenti peut-être le travail.
Non, mais après tu le dis très justement de comment on a travaillé avec des explorations beaucoup au départ par rapport au moment de peinture pour la fin, au moment de la danse aussi, tous les moments un petit peu plus corporels et même le chant qu'il y a au tout début, parce qu'on voulait qu'il y ait des respirations aussi, ça c'était vraiment une volonté dès le départ, qu'il y ait des respirations, qu'il y ait des temps de pause, qu'il y ait des temps aussi pour le spectateur pour digérer les informations qui sont pas évidentes, qui peuvent aussi toucher chez des personnes, qui touchaient à l'intime, vraiment, et voilà, les explorations étaient hyper importantes pour ça. Et après, on a travaillé beaucoup, effectivement, en discutant, au plateau aussi, en testant des choses, en testant plusieurs directions, pour après se mettre d'accord ensemble sur ce qui allait le mieux. Et Séverine, effectivement, nous a permis d'apporter encore autre chose que moi j'avais envie et toi aussi, mais que en étant que toutes les deux parfois des fois on était bloqués sur des petits détails de transitions, de choses dans le texte,
comment faire que ça s'embrique, que...
voilà, et Séverine nous avait travaillé plus en continu sur plusieurs textes et nous a apporté aussi un décalage au niveau de l'humour, notamment par exemple la scène de la scène où je parle de la sorcière que j'ai commencé à inventer des histoires, ça, tout ce décalage, moi, par moi-même, j'aurais pas osé me dire dans un spectacle qui parle de ça,
je vais faire pas y mettre une sorcière, intervenir une sorcière.
Voilà, et elle m'a dit, mais si, en fait, tu peux faire ce que tu veux.
Oui.
Donc, elle nous a apporté cette liberté-là de nous dire, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec ce sujet-là. Après, dans la limite du raisonnable. Mais en tout cas, on peut aller vers l'humour, on peut aller vers le décalage, on peut s'amuser, on peut faussement mourir et s'amuser de ça, quoi. Voilà, et ça, c'était précieux aussi d'avoir ce décalage-là.
Et oui, c'est le fait que... Enfin, comment dire, parce que j'en reviens toujours à cette histoire, parce qu'on doit en terminer par là, puisqu'après j'ai un autre invité. Le fait comme ça que, malgré tout, la vie ressurgit toujours, quoi. Enfin, c'est... Et puis, quand vous disiez tout à l'heure que vous vouliez des respirations par rapport au texte, dont la peinture, la danse, tout ça, mais ça, c'est une lecture aussi qui explique votre ressenti, qui éclaire votre histoire aussi. Enfin, c'est un tout, quoi. Ce sont plusieurs types d'écriture et... plus l'humour, oui, mais l'histoire de la sorcière, oui, après ça tient la route, enfin je veux dire, oui, c'est une sorcière, bon, si on... enfin, bon, parce que, alors on a plus le temps, mais si on débat sur les sorcières, enfin bon, comment elles ont été appelées sorcières, qui on considérait comme sorcières, comme par hasard en général, c'était quand même la gente masculine qui, enfin bon, bref, donc il y a tout ça, mais oui, ça ne choque pas, quoi, je veux dire, c'est vraiment une lecture comme ça, avec plusieurs approches, et qui donne le résultat que vous nous proposez, si on peut dire ça comme ça.
Et par rapport aux fulgurances de vie qui reviennent dans le texte, ça c'est vraiment quelque chose, en tout cas pour moi, qui ai vécu un inceste en étant enfant,
oui.
C'est qu'il y a malgré tout... Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gandhi qui dit « c'est au plus noir des nuits ». Ah, je vais l'oublier, du coup, n'importe quoi.
Qu'on voit la clarté, que la lumière ressurgit,
que l'aube va se lever et que c'est à l'intérieur de la nuit la plus noire qu'il y a l'espoir, en fait. Enfin, moi, je le perçois vraiment comme ça. Oui. C'est une phrase qui m'a beaucoup guidée, en étant ado et jeune adulte et encore maintenant. Mais en tout cas, il y a une force de vie quand même phénoménale qui nous pousse à aller... chercher ces informations-là qui ne sont pas si évidentes que ça.
Pour continuer à avancer,
pas pour s'enfoncer encore plus par rapport à ces événements.
Qui est contre Thanatos.
Oui, c'est ça. Et qui nous, vraiment, une force de vie qui nous guide. Et heureusement qu'il y a ça.
Cette ressource. Nous allons terminer sur ces paroles peut-être. Donc c'est encore joué ce soir et demain soir 21h au théâtre du Grand Rond. D'ailleurs le Grand Rond a coproduit, on peut dire comme ça,
la création. Ils ont coproduit la création et ils m'ont fait confiance le temps d'une rencontre, parce que j'avais participé au Champ des Possibles, qui est un appel à projet pour les créatrices d'Occitanie. Et puis c'est par ce biais-là que le Théâtre du Grand Rond m'a repéré et a décidé de me coproduire. Donc voilà, super.
Merci à toutes les deux.
Merci. Merci Marie-Madeleine, merci beaucoup.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'encre seule.